Bonjour, bienvenue, il est 9h à Paris, 8h en temps universel. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité, dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord le journal international. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Juan Gomez. Et à la une ce vendredi 21 février, l'Ukraine isolée après les attaques verbales de Washington contre le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine en difficulté sur le terrain aussi après le gel de l'aide américaine. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kramatorsk à suivre. Au Panama, près de 300 migrants expulsés par les États-Unis sont bloqués et sont dans une situation administrative très floue. Nous serons aussi au Sénégal qui lance de grandes fouilles archéologiques pour établir précisément le nombre de victimes des massacres de Tiaroy. Enfin, Haïti pleure la disparition de Franck Etienne, artiste touche-à-tout, mort ce jeudi à l'âge de 88 ans. Un dictateur sans élection pour Donald Trump, méprisé par le peuple ukrainien selon Elon Musk. Volodymyr Zelensky est attaqué de toutes parts aux États-Unis. Le président ukrainien qui rencontrait hier l'émissaire américain Keith Kellogg et il assure malgré les attaques vouloir des relations solides avec Washington. L'Ukraine touchée par ailleurs par le gel de l'aide étrangère américaine de l'USAID. Gel décidé début février et qui se vérifie déjà sur le terrain dans le Donbass, à Kramatorsk, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. L'ONG Svitanok apporte son aide aux personnes séropositives ou tombées dans la drogue et subit déjà les conséquences de la fin de l'USAID. Reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit.
Sur les murs des locaux de l'association, les affiches avec le logo de l'USAID sont encore là. Mais les quatre employés ne reçoivent plus de salaire. Natalia Zelenina, elle-même séropositive, ne décolère pas contre la décision de l'administration Trump.
C'est un coup en dessous de la ceinture. Cela fait souffrir les gens qui dépendent des services qu'ils reçoivent chez nous. J'estime que c'est injuste. Jusqu'à présent, on avait réussi à contrôler les infections au VIH. On avait un traitement pour l'hépatite, des tests, on avait tout ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se passer.
Un homme passe une tête, il vient chercher une seringue. L'ONG Svitanok, l'Aube, accompagne les toxicomanes et propose des autotests pour dépister le VIH. Des services d'autant plus nécessaires dans cette région du Donbass qui subit la guerre depuis 11 ans. Svitlana Andreeva s'occupe en particulier des enfants et des femmes infectées.
Déjà, la guerre a aggravé les problèmes parce que le commerce du sexe s'est développé. Notre dispensaire est rempli de militaires qui sont atteints de co-infections. Tuberculose sur fond d'infection par le VIH et puis bien sûr la toxicomanie augmentée. Or, c'est l'un des moyens de transmission du sida. Bref, on va finir noyé dans cette épidémie.
L'autre préoccupation de ces femmes, c'est la pression des Russes sur le front. Le plan d'évacuation de l'ONG et de ses employés est prêt. Mais on espère que nos gars tiendront, souffle Svitlana dans un rire crispé. Pourvu qu'on ne soit pas obligé de capituler. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kramatorsk, RFI.
Sur le continent américain à présent, 177 migrants vénézuéliens ont quitté Guantanamo, direction le Venezuela, à la demande de Caracas, en signe de bonne coopération avec Washington dans le cadre de la politique d'expulsion massive du président Donald Trump. En revanche, au Panama, près de 300 personnes expulsées par les États-Unis sont toujours bloquées, venues pour la plupart du continent asiatique. Elles doivent être renvoyées vers leur pays d'origine, mais ont un statut mal défini, Grégoire Portier.
À certaines fenêtres de ce grand hôtel de Panama City apparaissent des silhouettes. Elles semblent vouloir passer des messages, se masquant la bouche, mimant un égorgement. Ce ne sont pas les touristes habituels, mais des migrants expulsés par les États-Unis. Impossible de leur parler, des policiers montent la garde devant le bâtiment. Le président José Raúl Mulino assure que cette opération restera exceptionnelle.
Aucun autre vol n'est prévu, ni rien d'équivalent. Parmi ces personnes avaient été identifiées 157 femmes et 142 hommes, 12 familles avec un total de 24 enfants.
Malgré les éventuels risques encourus en retournant dans leur pays, 13 ont déjà été rapatriés volontairement et 41 seraient en partance principalement vers l'Inde, la Turquie et la Chine. Au Panama, les critiques fusent sur cette coopération avec les États-Unis, mais Mulino assure que le processus est légal, que son pays sert simplement de lieu de transit.
Cela ne coûte pas un centime à la République de Panama. C'est l'Organisation internationale pour les migrations qui prend en charge cette opération et 100% de son coût. La seule chose que fait Panama, comme d'autres pays, est de coopérer sur cette question de flux migratoires qui nous préoccupe tous. Il n'y a rien de nouveau.
Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la tension entre les États-Unis et le Panama depuis que Donald Trump revendique le canal. Cette opération permet ainsi au petit pays de soigner sa relation avec Washington. Grégoire Portier, Panama, RFI.
Au Proche-Orient, Israël toujours sous le choc au lendemain de cette mise en scène macabre du Hamas. 4 corps d'otages israéliens ont été restitués. Parmi eux, ceux des enfants de la famille Bibas, Ariel Ekfir, âgé de 4 ans et 8 mois lors de leur enlèvement. Et l'armée israélienne qui révèle par ailleurs, après autopsie, que l'un des corps ne serait pas celui de Shiri Bibas, la mère de famille de 33 ans. Une violation cruelle, selon Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Et il annonce qu'Israël agira avec détermination pour ramener le corps de Shiri Bibas, alors qu'en Arabie Saoudite aujourd'hui s'ouvre ce vendredi donc un sommet de dirigeants arabes. Riyad annonce une réunion fraternelle informelle entre 6 pays du Golfe, plus l'Égypte et la Jordanie, pour discuter d'un plan en réponse à Donald Trump, qui veut placer la bande de Gaza sous contrôle américain. Le refus d'une évacuation des Gazaouis fait consensus parmi les pays arabes. C'est ce que nous dit Hassni Abidi, directeur du Centre d'études de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
L'élément le plus important, c'est qu'il n'est pas question de faire évacuer ou de procéder à un transfert des Palestiniens pour débuter la reconstruction de Gaza. Oui, à la reconstruction, mais avec les Palestiniens et non pas sans les Palestiniens, comme le dit le plan de Trump. Le deuxième élément, c'est qu'il y aurait certainement une présence de la part de plusieurs États arabes et probablement même international. Ensuite, il y a la question de la gouvernance, c'est-à-dire que cet effort, il doit être piloté par des instances internationales. L'Égypte, évidemment, vu sa proximité géographique, elle va être en avant-garde. Et la question de l'autorité palestinienne et la question du Hamas et qui va gouverner, c'est cette question là qui pose des difficultés, et c'est pour ça que le mini sommet doit absolument aborder cette question à la lumière des déclarations de Benjamin Netanyahou, qui ne veut même pas de rôle à l'autorité palestinienne à Gaza.
Pour recueillir pareil que Schmidt du service international de RFI. RFI 9h07 à Kinshasa, sur le front de l'Est de la RDC. Les combattants du M23 poursuivent leur progression dans les deux Kivu. Des pillages ont de nouveau été rapportés à Uvira, la deuxième ville du sud Kivu. Des combats aussi signalés dans plusieurs localités, du Lubero au nord Kivu. L'actualité africaine ce matin, c'est aussi le Sénégal qui veut faire la lumière sur le massacre de Tiaroy. Combien de tirailleurs ont été tués par les forces coloniales françaises le 1er décembre 1944? Ousmane Sonko, le Premier ministre, veut donc répondre à cette question. Il a annoncé des fouilles archéologiques à venir. Fouille réclamée depuis près de 20 ans par les historiens. Pour l'instant, le bilan des victimes est estimé à 350 personnes. Correspondance à Dakar, Léa-Lisa Vesterov.
Aucune date n'a encore été annoncée pour savoir quand ces fouilles archéologiques vont commencer. Mais pour les historiens qui travaillent sur le sujet, le plus important, c'est le feu vert donné par les autorités pour procéder à ces fouilles. Dès 2005, l'Association sénégalaise des professeurs de géographie en avait fait la demande sans succès. Première étape désormais, sonder le cimetière et le site de l'ancien camp militaire de Tiaroy, en banlieue de Dakar, à la recherche de fosses communes ou de squelettes. Une étape qui pourrait être rapide, selon l'historienne Armelle Mabon, grâce aux radars ou matériel technologique disponible aujourd'hui. Le plus compliqué reste les fouilles. 80 ans après le massacre, le site est largement construit. Un bassin de rétention d'eau notamment se situe au niveau de l'ancien camp militaire et pourrait contribuer à dégrader les potentiels squelettes de tirailleurs africains. Pour les historiens qui travaillent sur le sujet, il faut donc faire vite pour avoir une chance d'établir enfin un bilan réaliste du nombre de victimes tuées le 1er décembre 1944 à l'arme automatique par les forces coloniales, alors que les archives françaises ne recensent toujours que 35 morts. Léa-Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Et on termine en Haïti, qui pleure ce matin la disparition de Franck Etienne, mort à l'âge de 88 ans, poète, peintre, chanteur, un immense artiste haïtien s'est éteint, Petersen Luxama.
La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, notamment sur les réseaux sociaux. C'est dans sa résidence privée, dans la commune de Delma, que Franck Etienne a rendu son dernier soupir. Écrivain prolifique, Franck Etienne est né le 12 avril 1936 dans le département de l'Artibonite. Figure emblématique de la littérature et de la culture haïtienne, il a fondé avec Jean-Claude Vignolet et René Philoctète le mouvement littéraire baptisé le spiralisme au milieu des années 1960, un courant littéraire qui cherche à s'affranchir des conventions littéraires traditionnelles en proposant de nouvelles approches. Franck était l'ultime écrivain du mouvement encore en vie. Le Saint-Marcroix a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages. La mort de Franck Etienne constitue une véritable perte pour la culture et la littérature haïtienne. Franck Etienne était frappé de plein fouet par la crise multidimensionnelle qui perdure en Haïti. En juin 2023, s'étant débarrassé de toute honte ou d'orgueil, l'écrivain avait publiquement raconté ses misères, appelant ainsi à la générosité de ses concitoyens. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
C'est ainsi que se termine ce journal. Je vous laisse